France Info.
Les informer avec cette impression de conclure une année politique là où elle avait commencé par une crise gouvernementale partie du ministère de la Transition écologique à la rentrée. Évidemment, c'était Nicolas Hulot qui claquait la porte pour cause de divergence de fond. Et là, en ce début de vacances, c'est François de Rugy qui est contraint de démissionner à cause de nouvelles révélations de Mediapart. Pourquoi une telle précipitation alors qu'Emmanuel Macron, hier soir, refusait de céder à ce qu'il appelait la délation? François de Rugy paye-t-il également une forme d'isolement, y compris au sein de la majorité? Faut-il édicter de nouvelles règles de sobriété financière pour les élus, accessoirement qui pour le remplacer, lui qui était le seul ministre d'État au sein de ce gouvernement? Les questions sont nombreuses, nos informés sont là pour y répondre et je vous les présente. Bonsoir Marion Mourgue.
Bonsoir.
Grand reporter au service politique du Figaro. Bonsoir Jad Zahab.
Bonsoir.
Vous êtes le fondateur du Parlement des étudiants, vous avez publié La France est une chance aux éditions des Trois Colonnes. Dans ce studio également Mathieu Niango. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe et membre fondateur du mouvement À nous, la démocratie. Et bonsoir à vous, Jean-Jérôme Bertolus.
Bonsoir Frédéric.
Chef du service politique de France Info. Vous avez le programme, vous connaissez les débatteurs, vous ne bougez pas pendant une heure. Les frais de mandat de député utilisés pour payer une partie des cotisations de son parti Europe Écologie Les Verts, c'est donc sans doute la révélation de trop pour François de Rugy. Il n'attend même pas d'ailleurs la publication pour quitter le gouvernement et annoncer son intention de poursuivre Mediapart. Et voilà de quelle manière la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, commente cette démission.
Je crois que c'est une décision d'abord personnelle de François de Rugy qui, face à l'accumulation de soupçons, d'accusations dont il a fait l'objet, a fait le choix, qui est un choix à la fois personnel mais aussi en soutien du collectif gouvernemental et de la majorité, de pouvoir se retirer du gouvernement de manière à assurer dans la sérénité sa défense et de manière à pouvoir répondre à toutes les questions qui lui sont posées aujourd'hui. Je veux aussi signaler qu'à ce stade, nous n'avons aucune indication que des règles aient été transgressées. Je pense que c'est important de le dire. Je pense que c'est important de le dire parce que, au fond, nous avons là un homme qui a eu un engagement d'une vie sur les sujets d'écologie, qui a été un bon ministre de la transition écologique et je veux saluer l'action qu'il a eue au service du gouvernement, qui fait face à des soupçons et qui fait le choix, en responsabilité, de pouvoir se libérer de ses obligations gouvernementales pour pouvoir y répondre de manière sereine.
Voilà, la première déclaration de Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement. Je retiens, Marion Mourgue, la première phrase. Décision personnelle, j'ai l'impression d'avoir dans l'oreille les mêmes mots au moment où Nicolas Hulot avait démissionné. Ce qui se passe, c'est quand même un rude coup pour le gouvernement.
Oui, et on sent un soulagement de la majorité de voir cette affaire presque s'arrêter au bout d'une semaine, alors que les mois de juillet sont assez meurtriers pour la Macronie, puisqu'il faut se souvenir que c'était le 18 juillet qu'il y avait l'affaire Benalla.
Un an quasiment jour pour jour.
Voilà. Et là, on sentait qu'il y avait de moins en moins de soutien autour de François de Rugy. Il n'avait pas réussi à avoir une tribune de parlementaires pour l'aider. On sentait que l'affaire allait monter de plus en plus, puisqu'il y avait les questions d'actualité au gouvernement, que François de Rugy allait être interpellé. Et donc là, on voit par ces éléments de langage les membres du gouvernement ou les députés dire de façon élégante, bref, ça s'arrête et on est soulagé.
Ouais, stop. Mais en même temps, dans ces conditions, Jean-Jean Bertolus, on se demande pourquoi Emmanuel Macron a pris la parole hier, c'était il y a tout juste 24 heures. C'était pas un soutien, on l'avait noté ici même, c'était pas un soutien fort, mais c'était quand même, voilà, moi je ne réagis pas à la délation, il n'y a pas de précipitation. Pourquoi?
Oui, Marion Mourgue a tout à fait raison, soulagement dans la majorité, mais en revanche, François de Rugy a pris à contre-pied l'exécutif, et en particulier les deux têtes de l'exécutif, le Premier ministre et le Président de la République.
C'était pas prévu aujourd'hui,
attends. C'était pas prévu, mais pas prévu du tout. Le Premier ministre a encore appelé hier François de Rugy pour lui apporter son soutien, explique l'entourage d'Édouard Philippe. Vous avez noté effectivement les propos du Président de la République en Serbie. Et en fait, ce matin, le rendez-vous entre François de Rugy et Édouard Philippe était à l'agenda. Ça veut dire que ce n'était pas un rendez-vous de crise.
Et c'est pas Édouard Philippe qui ce matin a
et
dit
non,
à François de Rugy.
C'est François de Rugy qui a transformé ce rendez-vous en rendez-vous de crise, puisqu'il avait reçu les questions de Mediapart liées effectivement à l'article publié par Mediapart cet après-midi. Il arrive, il est extrêmement marqué, selon l'entourage d'Édouard Philippe. L'entretien est extrêmement dur et c'est François de Rugy qui met sa démission sur la table et face à Édouard Philippe.
Je ne vais pas poser la question philosophique, Mathieu Niango, mais d'une certaine manière, c'est comment on tient le fil entre la solidarité gouvernementale, le maître des horloges qu'on veut rester quand on est président, et puis la pression de l'opinion publique. Il y a tout ça là-dedans. dans cette affaire-là.
Oui, il y a tout ça, mais lorsque vous disiez tout à l'heure que ça s'arrête et que c'est un grand soulagement, mais non seulement je pense que c'est pas le cas, mais j'espère que ça sera pas le cas, parce que la question de fond qui est posée, c'est pas... j'aimerais quand même que
juste,
cette affaire...
Quand je disais oui. ça s'arrête la question quand est-ce qu'il va démissionner, mais bien sûr que
l'affaire va continuer, et j'espère que l'affaire va continuer sur des bonnes bases, parce que la vraie question qui est posée, me semble-t-il, c'est pas tant le fait de savoir si c'est des dîners privés ou des dîners publics, ce qui serait une circonstance aggravante, mais c'est le fait que le président de l'Assemblée nationale en 2018, il a eu des frais de représentation, par exemple, de 405 000 euros. Ça fait plus pratiquement un SMIC par jour. Donc j'aimerais qu'on pose la question qui est la plus sérieuse, qui est celle de savoir dans quelle mesure l'intérêt général a besoin qu'un président de l'Assemblée nationale ait des frais de représentation qui soient pratiquement l'équivalent d'un SMIC par jour. C'est ça la vraie question de fond que nos concitoyennes et concitoyens doivent se poser. Ils ne doivent pas se tromper. C'est pas la question de savoir si c'est des dîners privés ou publics. De toute façon, pour être très honnête, ça va être très difficile de prouver qu'il n'y ait pas eu un vague travail qui a été mené pendant ces dîners-là. Donc la vraie question de fond, la vraie question démocratique, c'est celle-ci.
Cette question démocratique, vous la reprenez, Jean-Paul ?
Oui, complètement. Et si je peux me permettre, on disait à l'instant que sa démission n'était pas prévue, et vous le mentionniez, M. Bertolus, à l'instant, ce qui a précipité la démission de M. de Rugy aujourd'hui, c'est précisément les nouvelles allégations de Mediapart concernant l'utilisation par M. de Rugy de ce qu'on appelle l'IRFM, c'est-à-dire l'indemnité de l'enveloppe d'indemnité représentative de frais de mandat, qui a précipité cette démission-là. Et là-dessus, je crois que sa démission, elle vient beaucoup plus de cet élément-là sur l'utilisation de fonds publics pour financer ce qui était son parti à l'époque, Europe Écologie Les Verts, bien plus que la question des dîners. Et là, je crois que là-dessus, il faut aussi faire de la pédagogie vis-à-vis de l'opinion publique. Le président de l'Assemblée nationale, il est quatrième personnage de l'État. Il reçoit des chefs d'État, des délégations étrangères. Le président de l'Assemblée nationale, M. Ferrand, a annoncé dès la semaine dernière que la déontologue et le secrétaire général de l'Assemblée allaient travailler là-dessus. Et donc là-dessus, il faut savoir faire la frontière entre le moralement répréhensible et l'illégal. Et là-dessus, une enquête est en cours, mais à mon sens, ce qui a précipité la démission, c'est le fait que l'argent public ait pu financer un parti politique, ce qui est interdit en France, à part quand c'est l'État qui finance les partis à hauteur de ce qu'ils gagnent à l'occasion des élections.
Alors, frontière morale, légale et cette précision de l'utilisation de l'argent, on revient là-dessus évidemment, juste après avoir déroulé les grands titres de l'actualité à 20h10 avec vous, Léo Técher.
Une Allemande à la tête de l'Europe, la conservatrice Ursula von der Leyen devient la première femme présidente de la Commission européenne. Elle appelle tous les eurodéputés à travailler ensemble alors qu'elle obtient de justesse la majorité absolue. Ursula von der Leyen qui était jusqu'ici ministre de la Défense en Allemagne. Le gouvernement français salue un choix courageux après la démission de François de Rugy. Il l'a fait pour protéger l'exécutif selon la porte-parole Sibeth Ndiaye qui assure n'avoir aucune indication qu'il aurait commis des faits délictueux. Le désormais ex-ministre de la Transition écologique démissionne après les nouvelles révélations de Mediapart sur ses paiements de cotisations à Europe Écologie avec ses frais de mandat. Le projet de loi santé définitivement adopté au Parlement, un moyen de garantir une offre de soins et de qualité pour tous selon la ministre Agnès Buzyn. Le texte met fin au numerus clausus des étudiants en médecine. Il doit également permettre de lutter contre les déserts médicaux. Pendant ce temps, deux maternités du Haut-Rhin, Attan et Altkirch, annoncent qu'elles n'assureront plus les accouchements faute de ressources médicales. Le CHU de Nancy, lui, prévoit la suppression de 600 postes pour faire des économies. Et puis la série Game of Thrones bat un record, 32 nominations aux Emmy Awards, qui sont un peu les Oscars de la télévision américaine. La série fantastique de HBO a rassemblé près de 20 millions de téléspectateurs aux États-Unis pour son dernier épisode diffusé en mai dernier.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Frédéric Carbone.
Et on s'intéresse à présent de près à cette goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour François de Rugy, sans doute ce qu'évoquait Jadzab il y a une minute, ces dernières révélations de Mediapart, l'usage de ses frais de mandat de député pour payer une partie des cotisations à sa formation, hein, Europe Écologie Les Verts, en déduisant du coup du calcul des impôts. Voici les explications de Mathieu Caron, directeur général de l'Observatoire de l'éthique publique.
C'est strictement interdit depuis un arrêté du bureau à l'Assemblée nationale du 29 novembre 2017 et un arrêté du bureau du Sénat du 7 décembre 2017. Mmh. Avant, il y avait beaucoup moins de règles. On s'est dit qu'il fallait réglementer tout ça. Et c'est justement sous le mandat de François de Rugy qu'on a commencé à s'y atteler. Donc, c'est évidemment strictement interdit aujourd'hui. Avant, vous savez, les parlementaires pouvaient acheter leur permanence parlementaire avec leur IRFM, alors avec leur avance de frais de mandat, et maintenant ils ne le peuvent plus. On progresse petit à petit, des règles sont mises en place. Il va falloir encore en prendre, malheureusement, parce qu'on a besoin en France de cette culture de la règle, parce qu'on ne sait pas se l'imposer à soi-même.
Voilà, il va sans doute falloir prendre d'autres règles, on va s'interroger en se demandant lesquelles. Mais d'abord, Jean-Jérôme Bertolus, c'est assez ironique, c'est une mesure prise par François de Rugy lui-même, en tant que président de l'Assemblée nationale, qui lui revient comme un espèce de boomerang aujourd'hui.
Oui, c'est vrai que c'était un peu monsieur propre pris les doigts dans le pot de confiture. Mais quand même, deux précisions par rapport à cette IRFM, ces frais de représentation. D'abord, si ces faits étaient confirmés, il y a aussi un problème, c'est-à-dire qu'on utilise de l'argent public, mais qui est défiscalisé, qui ne rentre pas dans le traitement. Donc on ne déclare pas ces frais quand on est député en termes d'impôt sur le revenu. Et on les utiliserait pour effectivement payer un parti politique, et donc on a une défiscalisation. C'est une double défiscalisation, c'est interdit. Deuxième précision, vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines, on a eu la révélation, d'abord par le magazine L'Express, qu'il y a 15 députés lors de la dernière mandature, dont le dossier a été transmis au parquet national financier, par rapport à ces frais de représentation. Donc peut-être, pour reprendre effectivement ce qui a été dit, peut-être que cette affaire de Rugy va amener aussi l'Assemblée ou le gouvernement, et où le gouvernement a posé des nouvelles règles en matière de transparence.
Électrochoc, Marion Moore.
Oui, et on a l'impression que ces nouvelles règles sont presque en retard par rapport à la sensibilité de l'opinion publique. On l'a déjà vu avec François Fillon pendant la présidentielle, c'est-à-dire que les Français ne supportent plus qu'il y ait ce décalage entre ce qu'on leur demande et les pratiques des élus. Là, finalement, il y a la dernière affaire qui sort aujourd'hui, qui pousse François de Rugy à démissionner. Mais ce qui a fait aussi beaucoup de mal pour lui, c'est que tout le monde est capable de se dire qu'un dressing à 17 000 euros, c'est très cher. Et les Français font vite le calcul, alors qu'ils sont tous obligés de se serrer la ceinture. Les homards, c'est forcément un terme connoté. Donc les gens se disent élément de richesse et de puissance, et ça leur sort par les yeux.
Donc cette question morale, légale, quand à chaque fois est avancée la légalité...
À présent, on ne sait pas encore si c'est condamné par la loi, et peut-être qu'il y a un flou qui fait que, justement parce que les pratiques ont été un peu tardives, peut-être que ce n'est pas préhensible par la loi. Mais en tout cas, c'est condamné par l'opinion publique aujourd'hui.
Ce que dit l'affaire de Rugy, Mathieu Nyongo, c'est que des choses qui étaient acceptées, tolérées, en tout cas il y a quelques années encore, aujourd'hui ne le sont absolument plus. C'est ça avant tout ce que dit cette affaire.
Je ne sais pas si elles ont jamais été tolérées. Je pense qu'il y a simplement une opinion qui est mieux organisée, me semble-t-il, aujourd'hui. On l'a vu, je trouve que la presse, honnêtement, j'en vois insatisfait. Si j'ai des journalistes autour de la table, je trouve qu'elle a été impeccable. Elle n'en a pas fait trop dans cette affaire. Elle a été très bien et impeccable. Mais simplement, ce que je veux dire, c'est
François
que...
François de Rugy dit acharnement.
Mais enfin, il dit ce qu'il veut. Mais ça ne l'honore pas de dire ça. Mais simplement, ce que je veux dire, c'est que des règles qui devraient encadrer les pratiques des députés, aujourd'hui, elles sont décidées par des députés. C'est là où il y a un problème. Pourquoi on ne peut pas imaginer un autre dispositif qui ferait intervenir, je sais pas, des... Monsieur de Rugy, il a mis en place une convention de citoyens tirés au sort. Pourquoi on n'imaginerait pas une convention de ce type-là, avec des magistrats, avec d'autres gens, qui réfléchiraient sur ce que devrait être le train de vie des députés? Vous parliez tout à l'heure de la déontologue, mais excusez-moi, la déontologue, elle est nommée par qui? Par le bureau de l'Assemblée nationale, sur proposition de qui? De Monsieur de Rugy, c'est-à-dire du président de l'Assemblée nationale. Excusez-moi, c'est à mourir de rire. C'est à mourir de rire. C'est-à-dire que ces gens qui étiquettent les lois, ils les mettent en œuvre, et ensuite c'est eux qui les contrôlent. Ça n'existe nulle part. Là, il devrait y avoir une convergence de tout le monde sur ce sujet. Parce que même dans des grandes entreprises, le contrôle de la gestion, il se fait comment? Il se fait en interne, et puis aussi, vous avez des commissaires aux comptes qui viennent contrôler tout ça. Dans une formation politique, j'en ai co-créé une, en effet, à nous, la démocratie. Nous, une immense majorité de nos frais, elle passe par des contrôles de commissaires aux comptes. Pourquoi les députés, ça se passe pas comme ça? Pourquoi ils ont des avances sur leurs frais? Pourquoi ils font pas des notes de frais comme dans n'importe quelle entreprise? Pourquoi ces frais-là, ils correspondent? Attendez, c'est des avances sur les frais.
Je vous donne la parole, Jean-Jérôme Bertolus a quelque chose à vous dire.
Ils en font quoi?
Oui, vous avez des questions, il a quelques réponses.
Je vrai en partie, mais pas...
Je vous donne la parole, Jean-Jérôme.
Complètement exact. Les députés ne se contrôlent pas tout seul, en permanence. On l'a cité, il y a la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Depuis l'affaire Cahuzac, à chaque fois qu'il y a une affaire, on progresse quand même en transparence et on progresse en contrôle. Il y a donc cette haute autorité pour la transparence de la vie publique qui contrôle effectivement l'usage des frais par les députés, qui contrôle l'enrichissement. Maintenant, le gouvernement également est contrôlé. Et on sait d'ailleurs qu'à chaque remaniement, c'est un casse-tête, c'est-à-dire il y a un bal de personnalités, ces personnalités sont scannées et puis on s'aperçoit souvent de manière trop tardive qu'il y a eu des problèmes d'impôts ici effectivement des problèmes ailleurs. Donc on ne peut pas dire que les députés se contrôlent tout seuls. Et l'autre chose que vous avez dit, effectivement, vous rendez hommage à la presse, ce qui est intéressant quand même, c'est la réaction de François de Rugy. François de Rugy ne veut pas s'exprimer. Demain, a priori, il ne sera pas dans les médias. Mais tout à l'heure, il a fait un tweet d'une violence extrême. Il a tweeté qu'en fait, ça lui rappelait les propos de Mitterrand lorsque...
La mort de Bérégovoy,
voilà,
les chiens.
Ben, voilà, les chiens. Donc on sent quand effectivement que à quel point le rendez-vous de ce matin a été tendu et à quel point effectivement François de Rugy est marqué par toute cette affaire.
Jadzab, le risque aussi de populisme dans ce genre d'histoire en disant voilà, tous pourris, tous peuvent piquer dans la caisse, c'est pour ça qu'il faut peut-être des règles plus précises et encore une fois on ne sait pas ce qu'il en est de François de Rugy, enquête en cours.
Oui, tout à fait, et moi je suis très gêné par le discours que je viens d'entendre sur ces députés qui dépenseraient l'argent de manière infondée, de manière non contrôlé, etc. Et là, le risque, c'est qu'on tombe dans ce populisme et le fait de dire,
il
voilà,
pas,
les députés...
Il n'a pas attendu le populisme pour exister,
Dirait-on, préférerait-on, comme ça se passe parfois aux États-Unis, que les parlementaires soient financés directement par des entreprises privées. L'argent public qui est aujourd'hui dans les mains de nos élus, c'est un argent qui leur donne les moyens de leur indépendance, qui leur donne les moyens d'exercer au nom de la nation, parce que c'est bien au nom de la nation qu'ils exercent leur mandat. Et le risque, effectivement, c'est qu'on commence à dire que tous les députés sont beaucoup trop payés, que les députés touchent des enveloppes qui leur servent à faire je ne sais quoi. Ça n'est absolument pas le cas. Et vous disiez tout à l'heure la question du homard. Moi, je suis désolé, le homard, ça ne me choque absolument pas. Le président de l'Assemblée nationale, il est le quatrième personnage de l'État. Je le disais déjà, il reçoit des délégations
bien
officielles.
Bien sûr, s'il reçoit donc, des délégations officielles, voilà, là, ça semble plus donc, être dans le cadre privé.
Bien sûr,
c'est ça qui choque.
Là, c'est l'objet de l'enquête qui doit être menée. Et effectivement, s'il mange du homard avec sa conjointe, je leur souhaite bien du plaisir et j'espère que c'est lui qui paye le homard sur son propre salaire. Voilà, mais ne tombons pas dans l'antiparlementarisme primaire parce que ce genre de crise nous amène là et c'est très mauvais pour notre démocratie.
C'est précisément pas comme ça qu'on va combattre l'antiparlementarisme primaire. Allez, vous avez l'étude du CEVIPOF, excusez-moi, qui est sortie sur le baromètre d'appréciation des politiques.
Je vais vous redonner
85% des gens ont une opinion négative des politiques. Ils n'ont pas attendu ni cette affaire pour être négatif vis-à-vis du politique.
C'est l'horloge, la patronne, il est 20h20. On reprend évidemment la conversation, on se posera la question de la discipline personnelle aussi des élus parce qu'il y a les règles et puis la discipline qu'on s'impose après l'info, les grands titres, 20h20, Léo Técher.
Alors qui pour remplacer François de Rugy ? L'exécutif avait déjà eu du mal à trouver un successeur à Nicolas Hulot. Pour le moment, en tout cas, les dossiers sont repris par Elisabeth Borne, Brune Poirson et Emmanuel Wargon qui étaient sous la tutelle de François de Rugy. C'est le deuxième ministre démissionnaire après des révélations de Mediapart. François de Rugy quitte le gouvernement comme Jérôme Cahuzac en 2013. Le désormais ex-ministre de la Transition écologique aurait payé des cotisations à son ancien parti avec des frais de mandat. Bruno Le Maire appelle les 7 pays les plus riches du monde à chercher ensemble une solution internationale à la taxation du numérique. La France a voté la semaine dernière une taxe de 3% pour les géants d'Internet, ce que lui reprochent les États-Unis. Le ministre des Finances rencontre ses homologues du G7 demain à Chantilly, au nord de Paris. Et puis Bernard Tapie n'en a pas fini avec la justice. Le parquet de Paris a fait appel de sa relaxe dans l'affaire de l'arbitrage contesté de son contentieux avec le Crédit Lyonnais. Il avait touché 403 millions d'euros en 2008 et les juges n'avaient notamment pas retenu le détournement de fonds publics.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Frédéric Carbone.
Allez, on a parlé de tout ce qui était l'éthique, des débats, évidemment, intéressants, importants à cette table des informés. Ce soir, je voudrais qu'on revienne, excusez-moi à l'avance, sur les questions politiques aussi, parce que ce qui est en jeu, sans doute aussi, dans cette démission, et dont vous nous rappeliez, Jean-Jérôme Bortelus, à quel point elle avait été chaotique, hein, pas demandée par l'exécutif et un peu imposée par François de Rugy, c'est aussi, sans doute, la solitude d'un homme. Est-ce que Marion Mourgue, on n'a pas là aussi l'aboutissement de quelque chose qui est un homme qui était un peu à la fois un poste extrêmement important, deuxième du gouvernement, seul ministre d'État, et assez démonétisé tout seul un peu.
Oui, et on l'a vu tout à l'heure avec le message de Barbara Pompili sur Facebook, qui était presque sa dernière amie politique et qu'il a lâché aussi. Et en fait, François de Rugy... Ouais,
qui dit qu'elle ne veut pas être associée à ce genre de pratique.
Hein. Qui prend ses distances. Mmh. François de Rugy paye plusieurs choses. À la fois, le fait qu'il n'ait pas de cette majorité. Alors, évidemment, la majorité En Marche s'est construite au fur et à mesure, mais il est arrivé un peu par l'extérieur. Et on voit bien que le noyau historique des macronistes a toujours eu du mal à un peu intégrer ceux qui viennent soit de la droite, soit d'autres partis. Ensuite, il paye aussi d'avoir porté un texte à l'Assemblée nationale qui, justement, demandait des efforts aux députés. Et là, les parlementaires se disent... On ne va pas soutenir quelqu'un qui, finalement, n'a pas appliqué les règles qu'il nous demandait. Et puis, c'est un ministre qu'on attendait assez politique et qui a eu du mal aussi un peu à exister et à défendre ses textes. Donc, sur ces trois niveaux, finalement, et ben à chaque fois, il gagne en solitude.
Et d'une certaine manière, il paye un peu, Jean-Jérôme Bertelus, les amis qu'il n'a plus et des nouveaux amis qui n'étaient pas vraiment des amis aujourd'hui.
Oui, et puis d'abord, il a payé dans les premiers mois, souvenez-vous, d'être le successeur de Nicolas Hulot. Il était sans arrêt en train de se comparer, d'être comparé à Nicolas Hulot. Je peux vous dire, pour l'avoir rencontré à plusieurs reprises à l'époque, il avait beaucoup de mal. Il expliquait, moi, c'est l'écologie du quotidien, l'écologie de l'action, se défendant par rapport à cette figure charismatique qu'était Nicolas Hulot. Mais là où Marion Mourgue a raison, c'est qu'un homme politique ou une femme politique, c'est combien de divisions ? C'est quels sont vos amis ? Et vous savez, c'est pas seulement quand il y a une crise qu'on a besoin d'amis. Les grands ministres, ils font quoi, par exemple, à partir le soir ? Souvent, ils reçoivent leurs amis. Parce que leurs amis, ça leur donne des infos.
Mais pas à l'Assemblée nationale.
Non,
pas à l'Assemblée
nationale. Non, c'est surtout... Mais leurs amis, c'est souvent des élus. C'est souvent des élus. C'est d'autres ministres qui leur donnent des infos, qui peuvent leur dire, voilà, tel ou tel dossier, on en est là. Attention, sur cet arbitrage, on dit que tu vas le perdre, etc. Lui, François de Rugy, était effectivement très isolé. Ça pose aussi la question des écolos à l'Assemblée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Europe Écologie Les Verts a fait 13,5% aux européennes. Ça veut dire qu'Emmanuel Macron embrasse aujourd'hui ou tente d'embrasser l'écologie comme on l'a vu lors du G20 qui s'est tenu au Japon où il a dit qu'il faut absolument respecter l'accord de Paris. Et pourtant, il n'y a pas de groupe écolo à l'Assemblée. Il n'y a plus d'écolos à l'Assemblée. Donc effectivement, on a eu un de Rugy très, très isolé.
Un thème de réflexion pour vous, Mathieu Niongo. Le parcours de François de Rugy, Europe Écologie Les Verts, puis la primaire socialiste à la présidentielle, arrêtez-moi les spécialistes si je me trompe, ensuite ralliement très rapide à Emmanuel Macron, une fois que Emmanuel Macron est à l'Élysée, ça fait effectivement beaucoup d'ennemis potentiels, ça pose la question de la loyauté en politique, à un moment ça se paye ?
Monsieur de Rugy, je pense qu'il ne faut pas se focaliser comme ça sur sa personne, mais malgré tout, Monsieur de Rugy, il paye aussi toute une série de retournements de veste qui, à un moment donné, il fallait qu'il paye, quoi. Au moment de la primaire socialiste, de la primaire de gauche, je le rappelle, hein, Monsieur de Rugy, l'engagement qui était pris par les candidats, c'était de soutenir la personne qui arriverait en tête. Donc il a dit OK, puis un mois après, il a dit non, finalement, je soutiens Monsieur Macron. Il a fait ça. Sur la question du nucléaire, il a validé les délais que le gouvernement s'est accordé pour la sortie progressive du nucléaire. Sur la compensation carbone qui a été finalement décidée dans la loi énergie, eh bien, il a dit c'est une très bonne chose, alors qu'au départ, c'était quelque chose de plus direct, c'était la division par 4, je crois, des émissions de gaz à effet de serre par rapport à aujourd'hui, d'ici à 2050, etc. Et donc il y a toute une série aussi de renoncements, de trahisons que M. de Rugy paye aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il paye aussi ? C'est, pardonnez-moi, mais c'est aussi un engagement. Madame Ndiaye, tout à l'heure, elle parlait d'un engagement toute une vie en politique. Bah oui, mais au bout d'un moment, ce modèle-là, il atteint aussi ses limites. On a vu des gens qui étaient beaucoup plus vertueux que M. de Rugy aussi payer cette forme-là qui est de l'ancien monde et qui ne collait pas tout à fait avec la nouvelle personnalité gouvernementale, enfin que le gouvernement voulait se donner aujourd'hui. Mais la dernière chose que je voudrais dire quand même là-dessus, c'est que il était ministre de l'écologie. Et en 7 ans, on nous dit qu'il y a eu 7 ministres de l'écologie.
Il va y en avoir 7.
Il y en a eu 14 en 21 ans, j'ai fait le calcul. C'est un ministère dans lequel, effectivement, si vous n'avez pas de soutien extérieur à votre ministère, ça n'est pas possible d'agir parce que les enjeux sont beaucoup trop importants. Et ce n'est pas une chose nouvelle. C'est le premier ministre de l'écologie le disait déjà.
Jed Zahab, ça veut dire aussi, ça pose aussi la question de pratiques en politique, elles ne peuvent plus être les mêmes aujourd'hui qu'il y a quelques années encore.
Oui, ça c'est très certain et je pense qu'il faut qu'on s'en réjouisse. À l'heure des réseaux sociaux, à l'heure de l'information qui circule à une vitesse qui parfois dépasse même les hommes politiques puisqu'ils sont eux-mêmes pris au piège de ce temps politique qui va beaucoup plus vite qu'il y a quelques temps, on ne peut que s'en satisfaire. Et vous disiez tout à l'heure que c'est certaines règles que M. de Rugy a mis en place lui-même. Par exemple, en 2017, quand la majorité est arrivée, il y a eu un texte qui a été voté dit de moralisation de la vie politique qui a justement sur cette enveloppe de l'IRFM introduit un certain nombre de règles, l'a transformée, a introduit un contrôle fiscal pour l'ensemble des députés. Là-dessus, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, effectivement, il faut que la société, que le Parlement soit contrôlé parce que c'est de l'argent public. Et l'argument, en tout cas, qui permet de contrebalancer tout ça, c'est on contrôle le Parlement sur les frais, mais en même temps, si je peux me permettre cette expression, on donne aux parlementaires les moyens d'exercer leurs propres fonctions. La promesse, c'est aussi que quand je suis fils d'ouvrier, je peux exercer mon mandat de la même manière qu'un fils d'industriel, par exemple.
Il n'y en a pas à l'Assemblée.
Non, mais bien sûr, mais il y a un travail à faire là-dessus, mais la promesse, c'est ça qu'il y a derrière. Il ne faut pas seulement voir les montants en se disant, voilà, on leur donne cette enveloppe, qui par ailleurs est très contrôlée, il n'y a pas de fongibilité entre les différentes enveloppes. La promesse, c'est celle-ci. Donc il y a un travail à faire sur la composition sociale de l'Assemblée. Mais oui, la promesse, elle est là. Et effectivement, on a encore du chemin à faire, c'est certain.
Ça, c'est évident. On a encore du chemin dans cette émission. Les informés, vous restez évidemment tous autour de la table. On fera une petite place dans la deuxième demi-heure à l'autre information de la soirée, le décès du chanteur sud-africain Johnny Clegg. Et on va parler de l'après François de Rugy au ministère de la Transition écologique, parce que c'est quand même une vraie question. Qui et pourquoi faire? Vous restez la météo à présent.
France Info Météo, avec le CIC, banque numéro 1 au podium de la relation client 2019. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
Sébastien Léas.
Demain, la journée sera encore calme et bien ensoleillée. En début de matinée, des grisailles retarderont l'arrivée du soleil, notamment sur le Pays Basque et près de la Manche. Et de nouveaux passages de nuages élevés circuleront sur le pays. Ce voile nuageux sera parfois assez épais et blanchira temporairement le bleu du ciel. Demain après-midi, ce voile s'étendra essentiellement sur le nord-ouest et le pourtour méditerranéen. Ciel plus menaçant sur les Pyrénées avec des débordements nuageux venant d'Espagne. Des ondées seront possibles, tournant même à l'averse orageuse demain après-midi. Quelques gouttes sont aussi possibles demain après-midi sur les hauteurs de la Corse et vers le Mercantour. L'ambiance reste estivale avec une nouvelle hausse des températures. Il fera 25 à 33 degrés en général avec jusqu'à 35 degrés autour de la Méditerranée alors qu'on attend 20 à 25 degrés le long de la Manche.
Sébastien Léas, Météo France, excellente soirée, 20h30.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
Lauriane Delanoë pour l'info.
On l'appelait le Zoulou blanc. Johnny Clegg est mort aujourd'hui à 66 ans. Le musicien sud-africain atteint d'un cancer et luttait contre la maladie depuis 4 ans et demi. Johnny Clegg qui chantait, souvenez-vous, à Simbonanga à la fin des années 80. Une chanson dédiée à Nelson Mandela quand il était en prison.
Et nous serons avec Yann Bertrand, notre spécialiste musique, dans 3 minutes. On écoutera évidemment à Simbonanga et d'autres titres de Johnny Clegg.
Le gouvernement sans ministre de la Transition écologique et solidaire depuis cet après-midi. François de Rugy quitte ses fonctions. Il se dit victime d'un lynchage médiatique et porte plainte en diffamation contre Mediapart, le média d'investigation qui a révélé la semaine dernière que l'ex-ministre organisait des dîners avec Omar et Grand Cru quand il présidait l'Assemblée nationale. D'après Edoui Plenel, le cofondateur et président du journal en ligne, François de Rugy a démissionné juste avant la publication d'une nouvelle enquête.
Nous avons transmis hier soir de nouvelles questions à M. François de Rugy qui concernaient l'utilisation de ses indemnités de mandat quand il était député d'Europe Écologie Les Verts, la façon dont il les a utilisées à la fois pour payer la cotisation de son parti et pour d'autres dépenses. C'était des questions très précises.
Vous avez révélé des pratiques illégales ?
Ils nous ont promis une réponse à 13h, une deuxième à 14h et finalement à 14h30, c'est l'annonce de sa démission. Nous faisons notre travail au service de l'intérêt général. Monsieur de Rugy est le mieux placé pour le savoir. Il a prôné la probité, notamment dans l'utilisation de l'argent public par les élus. Il aurait dû tirer les conséquences dès nos premières informations. Il s'est entêté. Le fait qu'il se soit entêté fait que de nouvelles informations nous ont été fournies, que nous les avons vérifiées, recoupées. Et elles nous sont fournies par qui ? Par des gardiens de la République. Des gens qui, comme nous, les citoyens, considèrent que quand on est responsable, quand on incarne l'intérêt public, on doit être exemplaire.
Edoui Plenel, interrogé par Céline Asselot tout à l'heure sur France Info. Du côté du gouvernement, la porte-parole Sibeth Ndiaye assure ne pas avoir connaissance de faits délictueux. La continuité assurée au ministère par la ministre des Transports Elisabeth Borne et les secrétaires d'État Brune Poirson et Emmanuel Wargon en attendant la nomination du ou de la nouvelle ministre. La nouvelle présidente de la Commission européenne appelle les eurodéputés à travailler ensemble de façon constructive. L'allemande conservatrice Ursula von der Leyen, élue aujourd'hui de justesse au Parlement de Strasbourg. Un second procès pénal en vue dans l'affaire de l'arbitrage entre Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais. Le parquet de Paris fait appel de la relaxe générale prononcée la semaine dernière. Une nouvelle recrue au Paris Saint-Germain, le défenseur Abdou Diallo signe aujourd'hui pour 5 ans dans le club de football de la capitale. Le Français de 23 ans, ancien capitaine des Bleuets, arrive de Dortmund. Il est 20h33. La suite des informés avec vous, Frédéric Carbon.
Lauriane Delanoë, merci beaucoup.
20h, 21h, les informés.
Frédéric Carbone.
Et les informés de France Info ce soir, ils sont aussi en musique parce qu'on apprend le décès de Johnny Clegg. On a beaucoup parlé politique avec nos invités, on va continuer. Et quel chanteur fait-il encore plus le pont entre la musique et la politique que Johnny Clegg? Quel chanteur a-t-il cru plus que lui qu'on pouvait, avec sa musique, avec ses chansons, ce titre qu'on entend à l'instant, Scatterlings of Africa, bousculer l'apartheid en Afrique du Sud. Bonsoir Yann Bertrand.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous.
On a toujours appelé, on a sans doute eu tort, Johnny Clegg, le Zoulou blanc, mais il faut le redire quand même, c'était un pur Africain, Johnny Clegg.
Un pur Africain, oui, un pur Sud-Africain, même s'il était né, il faut le rappeler, au Royaume-Uni et qu'il a beaucoup voyagé, qu'il est parti en Zambie notamment pour revenir en Rhodésie, puis en Afrique du Sud. Mais c'est vrai, Frédéric, impossible de penser à lui à l'heure où on apprend sa mort sans penser à l'Afrique du Sud, quand Nelson Mandela croupissait dans les geôles de Robben Island dans ces années 80, où Johnny Clegg a été vraiment le porte-voix de toute une nation, un porte-voix blanc. Et c'est en ça que l'expression le Zoulou blanc est compréhensible aujourd'hui. C'est que un homme blanc qui s'élève contre un état de fait dans lequel les Noirs souffrent, eh ben c'était pas si courant. Il y en avait à la ANC avec Nelson Mandela, bien sûr, on a des images en tête, mais peu comme Johnny Clegg ont réussi culturellement, par le militantisme, par l'exemple, par l'ouverture, à donner une autre possibilité en réalité aux Sud-Africains, une autre vision d'un régime politique. Et si vous me le permettez, on a écouté Scatterings of Africa évidemment, mais je crois qu'il y a un titre auquel tout le monde a pensé quand on a appris la mort de Johnny Clegg. C'est un titre sorti en 1987 et c'est évidemment celui-ci. Je peux reprendre là. Assim Bonanga, nous ne l'avons pas vu, évidemment dédié à Nelson Mandela. Une chanson qui, si vous me permettez l'expression, file toujours aujourd'hui beaucoup de frissons, hein, Frédéric, parce qu'elle est très chargée.
Vous n'êtes pas dans le studio, Yann Bertrand, mais nos invités ont le frisson, oui, ça c'est sûr.
Voilà, c'est des frissons parce que elle a traversé les époques, cette chanson, et surtout elle est tellement, tellement, tellement marquée politiquement, culturellement. Nous ne l'avons pas vu, cette chanson en zoulou, en anglais aussi. C'était un peu la patte de Johnny Clegg, qui voulait mixer les cultures, qui voulait défendre les cultures, mais qui dans sa musique même mélangeait les rythmes africains, les rythmes zoulous, la guitare zoulou qu'il a appris à Johannesburg quand il était petit, et l'anglais, sa langue maternelle. C'est un chanteur par l'exemple. Alors certes, ce n'est pas une des plus grandes légendes de la musique mondiale, c'est un chanteur chanteur culte malgré tout. On l'a peut-être un peu oublié, mais à une époque, Johnny Clegg était peut-être plus bankable, si vous me permettez l'expression, que Michael Jackson.
Hein. Absolument. Et c'était une voix, évidemment, pour ici, en Europe, en France notamment, en Grande-Bretagne, c'était la voix venue effectivement d'Afrique du Sud et de ce combat contre l'apartheid. Est-ce qu'il a eu une telle puissance en Afrique du Sud aussi, notamment après la chute de l'apartheid, Johnny Clegg, Yann?
Oui, il est toujours resté en vérité cette voix humaniste, antiraciste, anti-apartheid. Pendant l'apartheid, ça a été très dur hein, pour lui quand même, parce qu'il faut rappeler que il commence la musique en rencontrant un guitariste zoulou qui s'appelait Sipho Mchunu. Il formera son premier groupe avec lui, et à l'époque, il n'avait pas le droit, tout simplement, de jouer avec un musicien noir. Il n'avait même pas le droit de prononcer le nom de Nelson Mandela. C'était interdit jusqu'à la libération de Nelson Mandela. Et par la suite, même avec la fin de l'apartheid, il est resté à la fois en Afrique du Sud, mais j'ai presque envie de dire surtout à l'étranger, en Europe, aux États-Unis. La voix humaniste par excellence, en 1997, vous avez peut-être ces images en tête à Francfort, où pour la première fois, Nelson Mandela le rejoint sur un concert à Francfort en Allemagne. Beaucoup de sens aussi à ce que ça se passe à Francfort en Allemagne. Il le rejoint sur scène et ils chantent ensemble à Simbananga. C'est une image qui aujourd'hui résonne un petit peu plus. Ces dernières années, il ne montait plus sur scène, il était malade, il avait arrêté les tournées, il voulait continuer les concerts, mais il était trop malade depuis ce cancer diagnostiqué en 2015.
Mais
il restera quand même une voix importante.
Vous avez 30 secondes pour nous faire écouter un autre disque, Yann. Une autre chanson.
Boy soldier, look into my eyes.
Voilà une chanson Boy Soldier, une chanson en anglais, comme je vous le disais tout à l'heure. Vraiment la patte de Johnny Clegg, c'est mixer l'anglais, le zoulou, avec des titres qui veulent dire des choses. Stand Your Ground, Boy Soldier, il a eu Third World Child. Excusez-moi pour l'accent. Third World Child,
oui, l'enfant du tiers-monde.
Et c'est aussi un titre plein de sens qui, jusqu'au bout, aura accompagné Johnny Clegg, mais peu ont la résonance, encore une fois, de celle qui met des frissons à tout le monde, à Simbananga. Mais on pourra réécouter à peu près la vingtaine d'albums de Johnny Clegg. Ça fera pas de mal. On se rappellera du personnage important qu'il a été et qu'il reste aujourd'hui, alors qu'il est décédé à l'âge de 66 ans.
Frédéric. Merci pour cette évocation, Yann Bertrand, Boy Soldier. On écoute encore un peu. Johnny Clegg, donc décédé à l'âge de 66 ans, aujourd'hui des suites d'un cancer qu'il avait contracté il y a quelques années. Les informés de France Info reviennent dans une minute pour parler de la succession de François de Rugy. C'est notre actualité de la journée au ministère de la Transition écologique. Après l'info, 20h40, Léo Téchère.
François de Rugy se compare à Pierre Bérégovoy. Comment ne pas penser aux mots de François Mitterrand, écrit-il sur Twitter. Pierre Bérégovoy s'était suicidé en 1993. François Mitterrand avait alors déclaré que son ancien Premier ministre avait été livré aux chiens. Pour Edoui Plenel, cofondateur de Mediapart, à l'origine des révélations sur l'affaire de Rugy, cette démission, c'est la victoire de l'information. C'est plutôt la victoire de la défiance, en train d'instiller un poison dans notre démocratie, selon Mathieu Caron, le directeur général de l'Observatoire de l'éthique publique, invité de France Info. Une Allemande à la tête de l'Europe, la conservatrice Ursula von der Leyen devient la première femme présidente de la Commission européenne. Elle appelle tous les eurodéputés à travailler ensemble alors qu'elle obtient de justesse la majorité absolue. Ursula von der Leyen était jusqu'ici ministre de la Défense en Allemagne. Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020. Le ministère de l'Intérieur vient d'en fixer les dates. Vous aurez jusqu'au 7 février pour vous inscrire sur les listes électorales. Et puis le secrétaire d'État Laurent Nunez prévoit un dispositif policier extrêmement conséquent pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. L'Algérie affrontera le Sénégal vendredi. Et après les débordements de ce week-end, Laurent Nunez veut répondre avec fermeté à ceux qui voudraient commettre des violences.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Frédéric Carbone.
Et nous allons essayer à présent d'évaluer les conséquences de cette démission de François de Rugy. Troisième fois quand même depuis 2 ans qu'un ministre d'État quitte le gouvernement Édouard Philippe après Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, et Nicolas Hulot, ministre lui aussi de la Transition écologique. On est toujours avec le philosophe Mathieu Niango du mouvement À nous la démocratie, Marion Mourgue, grand reporter au service politique du Figaro, Jade Zab, fondateur du Parlement des étudiants, et Jean-Jérôme Berthelus, le chef du service politique de France Info. Jean-Jérôme, il y avait un certain élan ces dernières semaines dans le gouvernement. Emmanuel Macron croyait avoir passé l'étape gilet jaune. Et cette affaire va freiner cet élan qu'on sentait depuis quelques semaines.
Oui, cet élan était marqué par les européennes. Finalement, ouf de soulagement, La République En Marche qui arrive numéro 2, qui tient son socle électoral. Et puis effectivement, cette idée que maintenant il fallait mettre l'environnement au cœur de la politique. Et Emmanuel Macron, on l'a assez dit, hein, on ne va pas y revenir, qui n'est pas au départ quelqu'un qui a une sensibilité écologique, qui s'est convaincu lui-même qu'il fallait effectivement embrasser en quelque sorte les problèmes de climat. Donc oui, c'est un véritable coup dur pour plusieurs raisons. D'abord, et ça m'a été rappelé hein, par effectivement un ministre de poids, et c'est le sentiment d'Emmanuel Macron. Il s'est fait élire sur une République exemplaire, sur une autre manière de faire de la politique. Et quel que soit ce qu'on pense de l'image de ce homard, ça a été ravageur. En tout cas, c'est les députés qui ont fait remonter ça, qui ont été effectivement assaillis de questions par leurs administrés. Premier point. Deuxième point. Vous l'avez dit, il va falloir maintenant le remplacer. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron et Édouard Philippe ne souhaitaient pas, dans l'immédiat, une démission de François de Rugy. En tout cas, ils souhaitaient attendre la fin de la semaine, la conclusion de l'enquête. Parce que qui pour le remplacer? On a vu que ça a été un casse-tête pour Nicolas Hulot. Alors là, maintenant, ça va être encore plus un casse-tête.
Je vous redonne la parole tous les trois. Justement, qui pour le remplacer? On écoute une experte, quelqu'un qui a été ministre de l'écologie. Je ne vais pas vous faire un quiz hein, pour la trouver. Delphine Batho, actuelle députée des Deux-Sèvres et une des premières avoir réclamé la démission de François de Rugy.
La fiche de poste, c'est d'avoir un président de la République écologiste et un premier ministre écologiste. Donc en fait, c'est pas une question de personne, de qui est au ministère de l'écologie. C'est un problème de cohérence politique quand, par exemple, il y a quelques jours, le président de la République a fait l'éloge du groupe Total et a critiqué la décision de la mairie de Paris de refuser l'argent de Total pour organiser les Jeux Olympiques. Ou quand aujourd'hui, par exemple, on nous dit qu'il n'y a pas de problème avec le CETA, les pesticides, les farines animales, les saumons OGM, etc. Donc en fait, il y a une orientation générale du gouvernement qui ne va pas du tout dans le sens de l'écologie et même de ce qui était présenté comme un acte 2 du quinquennat autour de l'écologie. Quelle que soit la personne, effectivement, il y a une difficulté politique majeure.
Delphine Batho, donc un peu plus tôt sur France Info. Elle a raison, Marion Mourgue, Delphine Batho. Peu importe la personne, c'est ce qui compte, c'est d'incarner enfin l'écologie, que ce soit enfin la priorité.
Oui, parce qu'on sait que le régime présidentiel veut que ce soit que les dossiers, s'ils sont importants, soient portés par le président de la République. Donc forcément, il faut que Emmanuel Macron incarne cette sensibilité-là s'il veut que son ministre puisse exister.
Mais il le veut vraiment, il est converti réellement. Jean-Jérôme Berthelus nous disait qu'il a changé, mais il est converti réellement.
Il y a du chemin qui a été fait, mais on peut dire qu'il y a encore du chemin à faire. Or, ça devient un des sujets de préoccupation des Français, et c'est pour ça que c'est compliqué aussi que cette démission arrive à ce moment-là. Et Jean-Jérôme Berthelus l'a rappelé, Nicolas Hulot, ça a pris du temps, mais le remplacement de Gérard Collomb a pris encore plus de temps. Or, on s'aperçoit que les réserves des ministres pour la majorité présidentielle ne sont pas très importantes. C'est quand même le 15e départ en 2 ans, donc il y a un turnover très important.
De convenance personnelle parfois, d'affaires de
parfois,
l'autre.
Exactement, sauf que justement, il y a peu de troupes et à chaque fois, ça prend de plus en plus de temps pour remplacer un ministre qui s'en va.
Mathieu Niango, vous qui êtes soucieux du poids de l'opinion publique, de la citoyenneté dans les dossiers importants, sur l'écologie, il est réel. Ce poids-là, la pression de l'opinion publique aujourd'hui, elle est absolument réelle.
Le problème, c'est pas juste un problème de personne. Enfin, le premier ministre de l'écologie de l'histoire de la République française en 1975 s'appelait Robert Poujade. Il écrit un livre.
Pas à confondre avec l'autre.
Il écrit un livre qui est remarquable, qui s'appelle Le ministère impossible. Voilà. Corinne Lepage, elle écrit un livre, je sais plus le titre, en 1988 quand elle est ministre de l'écologie. Madame Bateau, qu'on vient d'entendre en 2014, elle écrit un livre qui s'appelle L'Insoumise, en expliquant que c'est pas possible parce que vous êtes pris entre les revendications des écologistes purs et durs et puis les lobbies.
Elle a toujours dit que c'est à cause des lobbies qu'elle a
été démissionnée. Il faut qu'on change de méthode sur les questions écologiques. C'est pas juste une personne géniale qui, dans sa tête, va trouver les bonnes mesures, qui va dire on va taxer, on va faire une taxe carbone, ça va être super, extraordinaire, vous allez voir. Et puis c'est pas moi, c'est pas sur moi qu'elle va s'appliquer, mais ça va être sur des gens qui ont déjà peu de revenus, puis ça va donner les gilets jaunes. On va refaire ça combien de fois? Je veux dire, la seule méthode qui est la bonne, c'est de mettre tout le monde autour de la table. Et je le redis, monsieur Drugy, il a fait un très bon discours, je vous y renvoie, au moment de l'installation de la Convention citoyenne. Il a très bien posé la question de l'écologie contemporaine, jurant hommage là-dessus, parce que objectivement, c'était très bien. Et je pense que c'est la bonne méthode de dire qu'on va mettre autour de la table des citoyennes et des citoyens et qu'ils vont essayer de trouver des formules et des choses qui seront bonnes, à condition que le jeu ne soit pas faussé, que le gouvernement ne vienne pas corriger leur copie et que les choses soient immédiatement soumises aux gens. C'est ça qui va faire qu'il y aura une bascule écologique sérieuse. C'est pas de mettre tel ou tel, ça ne marchera pas, parce que les enjeux sont trop importants et les adversaires au vrai progrès, ils sont trop puissants. Donc, il faut que tout le monde soit autour de la
table. Jadzab, est-ce que de cet impondérable, et je pense que le mot est faible pour le gouvernement, de cette contrainte créée, peut sortir justement une opportunité de mettre l'écologie au cœur, au centre?
Alors, il faut le souhaiter. Hélas, pour le gouvernement, cette démission tombe dans un contexte où le Sénat examine le projet de loi dit énergie-climat, donc en plein dans le texte que portait François de Rugy. Donc, qui va le défendre? On disait tout à l'heure les ministres qui travaillent avec lui, peut-être Brune Poirson. Et puis, demain, à l'Assemblée nationale, sera examiné le projet de loi de ratification du CETA, le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Et là, clairement, le climat et les questions environnementales sont les grandes absentes de ce sujet. Donc, effectivement, fenêtre d'opportunité, oui, mais à condition que la majorité entame sa vraie transition écologique, si je peux me permettre le sujet. Et sur la question, effectivement, de qui va le remplacer, on disait aussi peut-être, je vois M. Bartholus qui réagit,
et Mario
que potentiellement Elisabeth Borne prendrait le relais. Enfin, en tout cas, il y a une équipe, mais le vide... Parce que ce sujet-là doit être politiquement incarné. Quand Nicolas Hulot est parti, effectivement, ça a laissé un vide, et on a l'impression que finalement, 10 mois après, François de Rugy n'a pas réussi à remplir les bottes de Nicolas Hulot qui sont vides depuis.
Je voyais Mario Monde secouer la tête quand
non,
vous disiez Brune Poirson.
Oui, non, c'est Emmanuel Wargon qui est censé représenter François de Rugy au Sénat ce soir.
D'accord, voilà, mais pour la succession, pour la succession éventuelle, est-ce qu'un de ces deux ministres est envisageable? Est-ce que...
Les deux secrétaires d'État sont cités, mais ça voudrait dire qu'elle n'aurait pas le rang de ministre d'État. On ne peut pas faire un gap aussi important, et donc s'ils veulent garder un ministre d'État, ça veut dire que c'est un recrutement presque extérieur au gouvernement, et donc pour l'instant, ils sont en train de réfléchir à cet arbitrage.
Et là aussi, symboliquement, c'est vrai que ministre d'État, ça parle à personne, mais ministre d'État, c'est un titre un peu honorifique, mais ça indique le poids du ministre. Et quand on est numéro 2 du gouvernement, normalement, effectivement, on gagne plus facilement des arbitrages, on est plus sollicité. Juste une petite précision, Frédéric, j'ai pas dit qu'Emmanuel Macron avait changé, qu'il s'était converti. D'ailleurs, on a vu et on a noté, les écologistes ont noté ça, y compris les écologistes les marcheurs de sensibilité écologique, ont noté ça, par exemple, qu'il a approuvé l'accord sur le Mercosur, qui pose beaucoup de questions. Je dis juste qu'il a effectivement, bien sûr, pris en compte le poids politique de l'écologie aujourd'hui, qui va être une donnée fondamentale pour les municipales et les élections à venir.
Le Mercosur, il y a aussi le CETA, l'autre accord commercial qui arrive demain à l'Assemblée, on va en parler, ça sera le dernier chapitre. Désinformé après l'info, 20h50, Léo Téchet.
François de Rugy démissionnaire, le projet de loi énergie et climat tout de même examiné cet après-midi au Sénat. C'est la secrétaire d'État Emmanuelle Wargon qui a remplacé au pied levé le désormais ex-ministre de la Transition écologique. Elle assurera la continuité de l'État avec Brune Poirson et Elisabeth Borne. Le parquet de Paris veut un nouveau procès pour Bernard Tapie, l'homme d'affaires relaxé la semaine dernière dans l'affaire de l'arbitrage contesté de son contentieux avec le Crédit Lyonnais. Il avait touché 403 millions d'euros en 2008 et les juges n'avaient notamment pas retenu le détournement de fonds publics. Il n'a jamais fait aussi chaud, une phrase que l'on vous répète de plus en plus souvent sur France Info. Et là, elle concerne l'endroit habité le plus au nord de la planète, 21 degrés recensés à moins de 900 km du pôle Nord. record absolu pour la base militaire d'alerte au Canada. Donald Trump se défend de tout racisme après ses propos sur 4 élus démocrates, des femmes qui détestent l'Amérique selon lui et qui devraient retourner d'où elles viennent. Ses tweets n'étaient pas racistes, martèle le président américain. Les leaders de son parti républicain, eux, restent muets. Et puis il était surnommé le Zoulou Blanc. Le musicien sud-africain Johnny Clegg est mort aujourd'hui des suites d'un cancer. Il avait 66 ans. Assim Bonanga, c'est lui un tube qui avait rapproché les différentes cultures de l'Afrique du Sud avant l'apartheid, la fin de l'apartheid.
France Info.
20h, 21h, les informés.
Frédéric Carbone.
Et il est temps d'ouvrir le dernier chapitre de ces informés largement consacrés au départ de François de Rugy. Qui, pour le remplacer, pour quelle politique, s'est-on demandé? Avec des tests qui arrivent, vous en parliez, Jean-Jérôme Bertelus, il y a les questions des accords commerciaux, notamment le Mercosur. Bon, on est d'accord, mais on s'est passionné totalement d'accord. Demain, c'est le CETA, autre accord commercial, qui arrive à l'Assemblée nationale,
je crois.
Un peu en catimini, pas avec
un vote solennel.
Ce sont des enjeux importants, ça, Marion Mourgue, pour donner des gages, parce que les écologistes sont les premiers, sans doute, les plus virulents sur ces dossiers-là.
Oui, et on voit des fractures à la limite dans tous les partis. C'est-à-dire que même aux Républicains, où il y a une défense des accords du libre-échange, il y a aussi des questions sur ce texte avec des normes environnementales qui ne sont pas exactement les mêmes au Canada et en France, puisque l'accord du CETA, c'est avec le Canada. Or, justement, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, les normes environnementales, les préoccupations sanitaires, c'est vraiment, ça s'est imposé dans le débat public aujourd'hui, et donc il y a une préoccupation plus forte des Français sur ces questions-là.
Et avec Mathieu Aniango, toujours, et de façon quasiment caricaturale sur les accords commerciaux, la question de la transparence. On se demandait la question de la transparence des fonds publics. Là, non, on est dans une opacité absolument.
Moi, j'ai été conseiller en cabinet au ministère du Commerce extérieur.
À quel moment ?
Au moment où Nicole Bricq était ministre. Et j'en profite pour répondre à ce qui était dit tout à l'heure sur le poujadisme. Mais le populisme démagogique.
Tentation de populisme.
Mais la seule chose qui vient désamorcer ça, c'est la transparence. Les États comme la Suède qui ont mis en place des politiques de transparence extrême, mais c'est les moins démagogiques, c'est les moins populistes, c'est ceux où la liaison entre les dirigeants et les populations sont les plus fortes. Et dans le cas des accords commerciaux, juste pour citer une expérience, quand j'étais au commerce extérieur, on avait mis en place des débriefings, des rounds, ça s'appelait comme ça, de négociations.
Donc en fait, des slides,
le négociateur avec des slides, tout ce que vous voulez, des smileys. Ce qui se passait, c'est que le négociateur venait et expliquait à un parterre d'ONG, de représentants de la société civile, ce qui se disait. Mais c'était, je vous assure, c'était passionnant et ça marchait très bien. Parce qu'il y avait des enjeux qui étaient très très sérieux et puis d'autres qui l'étaient moins, et ça venait un petit peu désamorcer un certain nombre de questions. Mais simplement sur le traité du CETA, moi je veux dire quand même quelque chose d'important. C'est qu'il y a cette question de l'opacité, et notamment il y a un truc qui est très grave qui est en train de se négocier, c'est les mécanismes de règlement de différends entre les investisseurs et les États. Ça, c'est pas du flanc quand les ONG elles disent que c'est quelque chose de grave, parce que c'est effectivement un mécanisme qui permet, pour que les auditeurs comprennent bien, qui permet en fait à un investisseur, à une grande entreprise, je sais pas, Philippe Maurice par exemple, qui est le champion du monde pour faire ce genre de choses, qui a vraiment mis en place un service pour pouvoir gérer ce genre de choses, de faire des procès à des États qui veulent mettre en place des législations. Et souvent, c'est des entreprises qui sont pas très vertueuses, qui font des procès et qui font pression sur les États. Ça, c'est très grave. Alors, j'entends les défenseurs de ce texte qui disent « Mais non, mais en fait, c'est pas si important que ça. » Mais enlevez-le, dans ce cas. Pourquoi vous avez besoin de ça? Pourquoi on réclame ces mécanismes-là? Et qui les réclame? C'est des États qui sont des États puissants vis-à-vis d'États qui sont un peu instables.
Les États-Unis les premiers.
Voilà, les États-Unis le réclament, par exemple, je sais pas, dans des États où il y a des coups d'État régulièrement avec des expropriations, ils le réclament. Pourquoi on le réclame quand il s'agit de l'Europe et du Canada? Ça n'a strictement aucun sens.
Alors, donc, voilà. On comprend bien. Je vais rebondir sur un mot que vous avez dit dans votre démonstration, pas sur les accords commerciaux, la Scandinavie, le modèle scandinave. Oui. On va terminer là-dessus. François de Rugy disait dans une interview dimanche, non, c'est pas pour nous.
La Scandinavie. C'est pas la barre chocolatée. Notre modèle, ce n'est pas celui de la barre chocolatée suédoise. Parce qu'on se souvient qu'une ministre suédoise avait payé une barre chocolatée avec la carte bancaire de son ministère et avait dû donner sa démission.
Jade Saab, c'est l'avenir la Scandinavie?
Non, je ne pense pas, mais en tout cas, il faut qu'on s'en inspire très largement.
Mathieu Nyongo, la Scandinavie, c'est l'avenir en un mot.
Je pense que c'est la France, l'avenir, et qu'elle doit inventer son propre modèle démocratique en s'inspirant des autres, évidemment.
Marion Mourgue,
les Français, on y est prêt, au modèle scandinave. Je ne sais pas si ce sera le modèle scandinave, mais les Français aspirent à avoir des informations sur les dépenses publiques, et donc ils attendent des ministres de savoir aussi quelles sont les dépenses, et que ce soit transparent et public.
Je vais vous faire travailler encore un tout petit peu, parce qu'il reste quelques minutes tous les quatre. Je demande, pendant toute cette semaine, on est en vacances, des conseils culturels, que vous conseillez de lire. Aujourd'hui, je vous demande une seule chose. Johnny Clegg est mort, c'est l'autre information de la soirée. Vous avez entendu, on en a écouté quelques disques, on en a pas mal derrière. Qu'est-ce que vous voulez entendre? Qu'est-ce que vous avez envie d'entendre de Johnny Clegg?
On en parlait tout à l'heure. Enfin, Assim Bonanga, moi, ça a bercé mon enfance. J'ai eu l'occasion de lui parler à Johnny Clegg dans une circonstance particulière. J'aimerais bien entendre cette chanson.
Pareil. Unanimité, ouais, vous êtes tous d'accord? Allez, on écoute Assim Bonanga.
Assim Bonanga. Assim Bonanga Mandela Tina. La pekona. La pefelikona. Assim Bonanga. Assim Bonanga Mandela Tina. La pekona. La pefelikona. Oh, the sea is cold and the sky is gray. Look across the island into the bay. We are all islands till comes the day we cross the burning water.
La demande de tous nos informés de ce soir pour conclure cette émission, cette journée marquée à la fois par la démission de François de Rugy, on en a beaucoup parlé, et par le décès de Johnny Clegg à l'âge de 66 ans. Johnny Clegg, Assim Bonanga et tant d'autres titres, Africa qu'on a écouté aussi tout à l'heure, l'homme qui voulait faire le pont entre toutes les races, toutes les cultures, en Afrique du Sud, mort à l'âge de 66 ans. Je remercie infiniment nos quatre informés de la soirée. Jean-Jérôme Berthelot, vous n'avez pas fini, vous restez avec moi encore un petit peu. Marion Mourgue du Figaro, merci.
Merci beaucoup.
À la une du Figaro demain.
Eh bien, François de Rugy.
François, bah, quelle surprise. Jacques Zahat, fondateur du Parlement des étudiants, merci.
Merci à vous.
Et merci à vous également, Mathieu Nyongo, philosophe, merci. Membre fondateur du mouvement À nous la démocratie.